reportage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver notre invité, nous vous avions annoncé que le débat de ce soir porterait sur la lutte contre la pédophilie à Madagascar, mais l'actualité en RDC s'est imposée. Nous nous excusons et vous promettons de reprogrammer ce sujet non moins important. Nous allons donc parler de la RDC avec l'annonce dimanche par le président Tshisekedi de la nomination imminente d'un informateur qui mobilise la classe politique. Pour certains, cette décision est illégale. Pour d'autres, elle est bien conforme à la Constitution congolaise. Mais avant d'ouvrir notre débat du jour, évoquons en quelques minutes avec notre invité l'actualité politique en Côte d'Ivoire, marquée par la remise par les autorités de deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, à l'ancien président Laurent Gbagbo.
Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et notre invité est en direct d'Abidjan, Mamadou Touré, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et porte-parole adjoint du RHDP du gouvernement. D'après l'avocate de Laurent Gbagbo, l'ancien président souhaite rentrer en Côte d'Ivoire dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous confirmez son retour imminent en Côte d'Ivoire? Allô, monsieur le ministre, vous m'entendez? Nous l'avons perdu pour le moment. On essaiera de joindre à nouveau le ministre porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, Mamadou Touré, qui est donc en direct avec nous d'Abidjan pour revenir, entre autres, sur la remise par les autorités ivoiriennes de deux passeports à l'ancien président Laurent Gbagbo. L'avocat de ce dernier affirme qu'il prévoit de rentrer en Côte d'Ivoire dans les semaines à venir. On ne sait pas si cela sera possible et on attend l'explication du ministre porte-parole du gouvernement ivoirien qui va aussi s'exprimer sur les conditions d'établissement de ces deux passeports, mais aussi sur d'autres cas des prisonniers détenus. Monsieur Touré, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, je vous demandais, l'avocate de l'ancien président Gbagbo annonce qu'il devrait rentrer en Côte d'Ivoire dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous confirmez son retour? Est-ce que celui-ci est imminent en Côte d'Ivoire?
Écoutez, je ne sais pas sur quoi l'avocat se base, mais toujours est-il qu'effectivement, Laurent Gbagbo a reçu donc ses deux passeports à travers donc ce cas qui avait été annoncé par son Excellence Hassan Ouattara. Il s'agit donc de contribuer donc à l'apaisement et en permettant donc à Laurent Gbagbo de disposer donc de ses deux passeports.
Vous dites que vous ne savez pas sur quoi se fonde l'avocat, mais permettez-moi de dire, l'avocate a annoncé que Laurent Gbagbo a instruit Assou Adou, le secrétaire général de son parti, de s'approcher de vous pour discuter les contours de son retour. Est-ce que cette démarche a été faite déjà?
Non, madame, ce que vous me laissez m'exprimer, ce que je vous ai dit, c'est que le communiqué qui a été, en tout cas l'annonce qui a été faite par Assou Adou, c'est que il doit se rapprocher donc des autorités ivoiriennes pour discuter donc des conditions de retour de Laurent Gbagbo. Donc à partir de ce moment, c'est pour ça que je dis que à partir du moment où donc cette discussion doit avoir lieu, en tout cas entre l'émissaire de Laurent Gbagbo Assou Adou et les autorités ivoiriennes, on ne peut pas spéculer sur une date de retour.
Est-ce que la démarche a été faite, monsieur le ministre? C'était juste ça ma préoccupation. Est-ce que monsieur Assou Adou a contacté le gouvernement ivoirien? Où en est cette procédure de retour éventuelle de Laurent Gbagbo?
Écoutez, à ce stade, je voulais quand même préciser que le président Ouattara avait été clair sur la question pour lever toute ambiguïté. Le président Ouattara n'a jamais été opposé au retour de Laurent Gbagbo, mais il a pris le bien soin de dire que Laurent Gbagbo se verrait délivrer un passeport et que le retour de Laurent Gbagbo sera aussi fonction de l'évolution des procédures à la CPI. Je veux rappeler que Laurent Gbagbo est encore en procédure à la CPI puisque les juges d'appel doivent se prononcer sur le recours qui a été fait par le procureur. Le président a estimé que à partir du moment où ces juges statuent et s'il avait que les juges acquittaient définitivement Laurent Gbagbo, en ce moment, il ne verrait aucun inconvénient, donc un préparatif donc, du retour de Laurent Gbagbo. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a eu donc, son passeport. D'ailleurs, je m'étonne que l'avocat ait traité donc la remise de ces deux documents d'épiphénomène. On ne peut pas, la remise d'un passeport ne peut pas être un épiphénomène quand on a passé des mois à tempêter sur tous les médias et à réclamer un passeport. Il faut apprécier à sa juste valeur les actes donc, d'apaisement posés par le président Ouattara. Et je m'étonne que ce soit par le mépris et par l'arrogance que l'avocat répond donc, à cet acte. Et d'ailleurs, je voulais préciser que Laurent Gbagbo n'avait plus de documents ivoiriens. Donc le fait de lui... Le fait de lui donner ses passeports permet donc à Laurent Gbagbo d'avoir des documents ivoiriens.
Et en échange de quoi ces deux passeports ont été remis à M. Gbagbo, ont été établis puis remis à M. Gbagbo, M. Touré ?
J'ai pas compris, madame.
En échange de quoi ? Quelle était la contrepartie de l'établissement et de la remise de ces passeports ?
Aucune contrepartie. Le président Ouattara travaille aujourd'hui à rassembler tous les Ivoiriens.
Certains disent qu'il a pris l'engagement de ne pas se mêler de la politique et d'observer une neutralité stricte, que c'est en échange de cela que ces passeports ont été établis. Qu'est-ce que vous répondez à cette version ?
Ça, c'est la responsabilité de ceux qui les... Et puis, on ne va pas spéculer sur des rumeurs et des ontis, madame. Ce que je vous dis, c'est que l'acte qui a été posé par le président Hassan Ouattara l'a été sans contrepartie. Il est soucieux aujourd'hui de l'apaisement dans son pays. Il est soucieux aujourd'hui de rassembler l'ensemble des Ivoiriens. Il a posé donc un acte républicain en délivrant donc à Laurent Gbagbo ses deux passeports. Et on espère que la délivrance de ces deux documents contribuera donc à consolider la paix et la stabilité donc dans notre pays.
Et qu'en est-il des cas de Blé Goudé et de Guillaume Soro ?
C'est pour ça que nous sommes quand même surpris par la teneur du communiqué donc de l'avocate qui, face à cet acte donc d'apaisement, répond avec désinvolture et mépris, et ce qui est inacceptable.
Monsieur le ministre, quel sera le sort de Blé Goudé, l'autre détenu de La Haye, et maintenant Guillaume Soro, l'autre ex-détenu de La Haye, bien sûr.
Écoutez, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est bien Laurent Gbagbo. Voilà.
Donc, le retour éventuel ou le passeport pour Monsieur Blé Goudé n'est pas à l'ordre du jour.
J'ai dit, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo.
Dernière question, monsieur le ministre. Le PDCI a organisé dimanche une messe d'action de grâce pour son numéro 2 détenu, Maurice Kakou-Gikawe, et pour les autres opposants emprisonnés. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous compatissez ?
Mais compatis à quoi ? Compatis au sort de personnes qui ont instrumentalisé des jeunes, qui ont appelé à la sédition, qui ont voulu mettre en place un mouvement de transition, qui ont armé donc des jeunes pendant les élections avec à la clé 87 morts, madame, on ne peut pas compatir.
Mais il y a beaucoup de voix qui demandent leur libération pour apaiser le climat politique. Parmi ces personnes, le premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier Faure.
On aurait voulu que ces voix s'élèvent quand ces hommes étaient donc à la base donc de violence à travers les appels à la désobéissance civile. On aurait voulu que ces voix s'élèvent pour condamner fermement ces actes de violence commis sur instruction donc de ses responsables. Voilà, c'est trop facile. La Côte d'Ivoire est une république et je pense que en la matière, nous n'avons aucune leçon donc à recevoir de personne.
Merci.
Fut-il donc du parti socialiste qui apparemment se préoccupe du sort d'Affine Guessant, qui est membre de l'International socialiste. C'est bien donc de faire de la solidarité entre camarades, mais quand il y va de la stabilité des nations, de la stabilité des pays. Comme en France, ici nous avons des règles et on ne peut pas faire n'importe quoi, même quand on est un homme politique.
Monsieur le ministre, j'avais annoncé la dernière question. Rassurez-vous, cette fois c'est vraiment la dernière. Les chanteurs Yodé et Siron ont été arrêtés et poursuivis pour avoir parlé d'une justice partielle, selon eux. Que répondez-vous à cette partie des Ivoiriens qui disent que le pouvoir Ouattara vire à une dérive dictatoriale ?
Écoutez, moi je n'ai pas fait de commentaire sur ce qui s'est passé, hein. Il y a eu des propos qui ont été tenus, des propos d'une extrême gravité contre le procureur de la République, et ensuite des propos qui mettaient donc de toute évidence en avant les clivages ethniques, etc. La justice s'est prononcée et ses responsables ont été de ces propos ont été condamnés avec sursis. Mais au-delà de cela, madame, vous avez un pays qui sort quand même d'une période électorale où il y a eu des velléités d'instrumentalisation des clivages ethniques. Vous avez un pays qui, en 2010, a connu près de 3 000 morts. Nous ne pouvons pas accepter qu'avec légèreté, des personnes, quel que soit leur statut artiste, politique, etc., puissent venir exacerber les clivages ethniques dans un contexte
déjà difficile et tendu. Merci beaucoup, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et porte-parole adjoint du RHDP du gouvernement ivoirien. Vous étiez en direct d'Abidjan.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et notre plateau ce soir pour débattre des réactions et conséquences de la nomination par le président Félix Tshisekedi d'un informateur pour la République démocratique du Congo est composé de Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du président Tshisekedi. Monsieur Kazadi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dieudonné Moinzé, communicateur du Front commun pour le Congo FCC. Bonsoir, monsieur Moinzé. Allô, monsieur Moisé, merci d'être avec nous. Merci également d'être avec nous, Raphaël Kibuka, député national et porte-parole du MLC, le Mouvement de Libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Bonsoir, monsieur, vous êtes là, monsieur Kibuka.
Bonsoir, madame, je suis là, bonsoir.
Bienvenue à tous. Je vais commencer par vous, monsieur Kazadi, ambassadeur itinérant du président Tshisekedi. Quand est-ce que cet informateur sera nommé? On parlait de cette semaine, vous confirmez aussi?
Oui, dans les prochains jours, incessamment, ça ne va pas tarder.
Alors, les consultations ont eu lieu du 2 au 25 novembre dernier. Ce sont ces consultations qui ont donné lieu finalement au discours du président Tshisekedi dimanche, au cours duquel il a annoncé la nomination donc de cet informateur, dites-vous, qui devrait être connu cette semaine. Est-ce que finalement cette consultation n'était pas un prétexte pour dérouler un agenda et justifier le divorce aujourd'hui acté entre le FCC et le CASH?
Mais votre question me surprend. Est-ce qu'il faut encore parler de la crise qui avait pris naissance depuis quelques semaines, sinon quelques mois? Cette crise est bien connue de tout le monde et donc il fallait bien en sortir. Et si on avait pris des décisions sans passer par une consultation, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Et donc il n'y a rien de plus normal. C'est un processus totalement démocratique qui consiste à interroger toutes les parties prenantes et le peuple souverain, bien entendu, à travers ses représentants, et ensuite prendre des décisions en restant dans la Constitution. C'est ce qui a été fait. Il n'y a rien de plus démocratique.
Vous êtes d'accord que certains parlent de prétexte, que c'était juste pour justifier déjà cette décision prise de longue date par le président Tshisekedi de vouloir se séparer et mettre un terme à cette coalition qui, pour certains, bloquait le fonctionnement de la RDC?
Non, mais pour certains qui? Écoutez, il est un fait que cette coalition a commencé à poser énormément de problèmes. Ce sont des problèmes qui sont connus, qui sont publics. Regardez, par exemple, on a une série d'ambassadeurs qui doivent être nommés dans plusieurs pays, qui n'arrivent pas à être nommés, qui ne sont pas nommés parce que il faut se mettre d'accord entre politiciens avec une vision excessivement politicienne pour un camp, alors que les ambassadeurs sont avant tout des fonctionnaires de l'État. Et donc, on n'est pas représenté comme il se devrait dans plusieurs pays. C'est un des problèmes, un exemple. Et ça, c'est le moindre, d'ailleurs. Il y en a davantage, il y en a des plus importants. Et donc, on a vécu pendant plusieurs mois, puis pas années, avec ces difficultés qu'on a essayé de gérer au mieux. Mais à un moment donné, il a fallu prendre des décisions dès lors
qu'il a fallu trancher.
Et c'est évident. Vous avez suivi les problèmes qu'il y a eu entre institutions.
Merci.
Les contestations de nomination, etc., etc., la défiance inacceptable de certaines institutions par d'autres, c'était pas
d'accord.
Possible. Vous pouvez pas confirmer.
Monsieur Moinzé, vous êtes là? Allô, monsieur Moinzé?
Oui, je vous suis, madame.
Oui, avec tout ce qu'on a...
Je vous écoute bien, madame.
Oui, il y avait eu beaucoup de signaux. Hein, en passant, il y avait aussi cette consultation qui a été initiée par le président. Est-ce qu'au sein de votre coalition FCC, vous n'étiez pas finalement préparé à assister à cet épilogue?
Bon, madame, nous avions donné notre position de manière claire par rapport à ces consultations. Nous avions dit qu'il s'est agi d'une initiative privée du CASH avec le chef de l'État de pouvoir mener les consultations sans nous associer alors que nous étions de membres partenaires importants de la coalition. Donc, nous avions compris à son temps qu'il était important que le chef de l'État puisse nous associer dans cette démarche, déjà au départ, à l'initiative, pour que nous puissions, au niveau de la coalition, savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces consultations. C'est ainsi que nous n'avions pas voulu aller à ces consultations.
D'accord, vous l'avez expliqué en son temps, vous n'y êtes donc pas allé. Aujourd'hui, on assiste à la nomination d'un informateur, M. Mwanze. Est-ce que vous étiez surpris par cette décision ?
Cette démarche est anticonstitutionnelle ce jour. Je l'apprends qu'incessamment, il va y avoir nomination d'un informateur. Ça sera anticonstitutionnel, puisqu'on ne peut pas nommer un informateur alors que le gouvernement est encore en place. Aujourd'hui, où nous parlons dans ce pays, il y a encore un gouvernement avec un premier ministre. Donc, ce premier ministre, il faut qu'il parte pour qu'il y ait un informateur. Et ce premier ministre ne peut partir que par trois façons. La première façon, c'est qu'il faut qu'il puisse démissionner, ça c'est sur pied de l'article 78 de la Constitution, soit qu'il faut qu'il parte de suite d'une motion de censure votée par l'Assemblée nationale, c'est sur base de l'article 147 de la Constitution, ou soit par condamnation par la Cour constitutionnelle, et là c'est ce que stipule l'article 167 de la Constitution. À ce jour, ces trois conditions ne sont pas encore réunies. Le Premier ministre n'a pas encore démissionné son gouvernement. Mais comment on peut nommer un informateur à ce jour ? C'est cela la grande question.
En tout cas, vous dites que c'est une violation flagrante de la Constitution, vous venez de le répéter. Et pour vous, le vote du budget
nomme dans ces conditions un informateur, alors que le Premier ministre est encore en place avec son gouvernement, ça ne va pas se justifier.
Merci, M. Mwanze.
Puisqu'il y a déjà un gouvernement en place, issu de la majorité parlementaire qui a été identifiée depuis 2019 entre nous, FCC et le CACHI. Le communiqué du 6 mars 2019 existe.
Merci, M. Mwanza. M. Kibuka, vous du MLC, quel est le regard que vous portez sur cette décision ? C'est vrai qu'on a déjà entendu votre leader Jean-Pierre Bemba se féliciter de cette décision. Aujourd'hui, quelle peut finalement en être l'incidence sur la vie politique dans votre pays quand deux grandes forces, deux grands alliés se séparent et divorcent ?
Madame... Nous ne considérons pas cela comme une forme d'incidence. Nous estimons qu'il était temps que les choses puissent changer. Parce que le MLC, je puis vous le confirmer, ne lie pas la donne politique actuelle en termes de bras de fer. Et n'entend nullement participer dans un pugilat qui a pour objectif le positionnement des individus. L'état actuel de notre pays n'est un motif de fierté ou de satisfaction pour aucun camp politique actuellement. L'enjeu n'est donc pas de se repositionner les uns et les autres dans le paysage politique, mais de nous souder le coude pour redresser ce pays qui n'en finit pas de sombrer au grand étonnement de toute l'opinion africaine et internationale. Donc pour tout Congolais épris de bonne volonté et d'amour pour ce pays, il était grandement temps de pouvoir, n'est-ce pas, se mettre autour d'une table, dialoguer et jeter une nouvelle base pour une gestion, une gouvernance nouvelle.
Donc vous ne considérez pas cette décision du président Tshisekedi comme illégale, comme le souligne le FCC ?
Non, je ne la considère pas comme une décision illégale. Je voudrais d'ailleurs préciser, madame, qu'au moment de participer à ce débat, je voudrais avant toute chose indiquer que je n'entends pas faire un débat de droit en général, ni de droit constitutionnel en particulier, sur les conséquences juridiques du nouveau cap que le président a décidé de donner au pays. Je suis juriste de formation et avocat de profession, et c'est justement à ce titre que je voudrais éviter un travers propre aux juristes.
Merci.
Et aux juristes polonais en particulier, qui consiste à donner la priorité au débat plus qu'aux solutions aux problèmes.
Merci beaucoup. On va marquer une pause, messieurs. Restez avec nous. Je vous retrouve dans quelques instants.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de la République démocratique du Congo avec l'annonce faite hier par le président Tshisekedi de nommer d'un informateur pour mobiliser la classe politique. Certains s'en réjouissent, d'autres estiment que cette décision est illégale. Et nous en débattons avec nos trois invités, Maître Raphaël Kibuka, porte-parole du MLC, de Jean-Pierre Bemba, Dieudonné Mwanze, communicateur du FCC, de l'ancien président Kabila, et Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du président Tshisekedi. Et nous vous donnons la parole à nouveau, Monsieur Kazadi. Ce soir, le Premier ministre Lukamba s'entretient avec le président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette rencontre, Monsieur Kazadi?
Écoutez, logiquement, on peut tous imaginer ce qu'il faut en attendre. C'est que le Premier ministre tire les conséquences de la situation politique nouvelle depuis le discours du chef de l'État qui a dénoncé l'accord sur la base duquel lui-même a été nommé, le gouvernement a été formé. La conséquence logique, immédiate, juridique, politique, tout ce que vous voulez, c'est de démissionner. Maintenant, va-t-il le faire sans difficulté? J'espère que oui. M. Ilunga n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a une vie politique bien avant Kabila. J'espère qu'il sera à la hauteur de son passé. Si le FCC l'intimide et le pousse à résister, ce serait vraiment regrettable pour lui-même et pour le pays et même pour les institutions et pour le droit.
Monsieur Moinzet? Allô, Monsieur Moinzet?
Madame, il faut dire que la démission est un acte volontaire. Même s'il peut y avoir une demande venant de qui que ce soit, la Constitution est claire à ce sujet. Le Premier ministre, il y a une voie pour partir, entre autres, la démission. Et la démission n'est qu'un acte volontaire. On ne peut pas forcer quelqu'un à démissionner.
Qu'est-ce que vous souhaitez au FCC? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Pas simplement qu'on viole ses droits en tant que citoyen d'un pays, en tant qu'homme politique, mais on vole également la Constitution. Donc,
qu'est-ce que vous souhaitez, M. Moinzet, que le Premier ministre...
Constitution à tout moment.
Vous souhaitez que le Premier ministre Lukamba refuse de démissionner et oblige le président Tshisekedi à le limoger?
C'est un homme d'État, c'est un homme d'État, nous ne pouvons pas l'obliger à ne pas démissionner. Il est conscient de ce qu'il peut poser comme acte, puisque aujourd'hui, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire dont on a parlé, qu'elle s'est effritée, je ne sais pas par quel mécanisme, cette majorité parlementaire est encore là, compacte. Donc, lui, Premier ministre, avec son gouvernement, en tant qu'émanation de l'Assemblée nationale, tant qu'il y a encore la majorité parlementaire, je ne vois pas pourquoi il peut démissionner. Et la Constitution ne prévoit pas un cas où on peut limoger un Premier ministre par le président de la République. Le faire, c'est anticonstitutionnel, madame. Notre Constitution ne prévoit pas, je vais citer les trois cas par lesquels le Premier ministre peut sortir avec son gouvernement. C'est soit la démission, soit la motion de censure de l'Assemblée nationale, soit la condamnation déclarée par la Cour constitutionnelle qui est son juge pénal.
Et on n'est dans aucun de ces trois cas de figure. Alors, selon vous...
On n'est pas dans ces trois cas de figure. Il faut ramener le Premier ministre dans ces trois cas de figure. L'appeler pour l'intimider ou pour faire quoi que ce soit et le pousser ou l'obliger à démissionner, c'est anticonstitutionnel.
Merci.
C'est une violation. Ne peut pas obliger quelqu'un à démissionner.
Merci.
Puisque la démission est un acte volontaire.
On a bien compris votre proposition, vous donnera évidemment la parole ensuite. Monsieur Raphaël Kibuka, est-ce que vous vous attendez à ce que le Premier ministre démissionne à l'issue de sa rencontre ce soir avec le président, comme semble le dire Monsieur Kazadi?
Nous ne voudrions pas aborder cette question étant donné que nous estimons que c'est un combat de ménage qu'ils essayent d'arranger. Nous nous observons de loin.
Mais vous avez déjà pris parti à travers les déclarations et le communiqué signé par votre président MLC. Même si vous dites que c'est un combat de ménage, le MLC a déjà pris parti, fait cause pour le camp présidentiel. Donc vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre.
Oui, au MLC, madame, nous avons choisi le courage de nos idées politiques.
D'accord. Maintenant, est-ce que vous souhaitez que le Premier ministre démissionne, comme le disait M. Kazadi, ou qu'il soit maintenu comme l'évoque M. Kibuka?
Non, mais la logique serait la démission, parce que c'est une conséquence logique. Dès lors que la majorité s'effrite, la majorité sur laquelle lui repose son autorité s'effrite, la conséquence, c'est la démission. Mais je ne voudrais pas aborder cette question avec force d'État. Je laisse ce débat aux deux co-débatteurs.
D'accord. Je vais donc vous poser la question qui vous concerne directement. Est-ce que le MLC va entrer au gouvernement parce que une fois que l'informateur sera nommé, on va former un nouveau gouvernement, il va falloir nommer les uns et les autres, peut-être un gouvernement resserré, puisque le président a déclaré que la diminution du nombre de ministres faisait partie des requêtes et, par les personnes reçues. Est-ce que le MLC va entrer au gouvernement ?
Il est vrai que nous avons souscrit aux pétitions qui tendent, n'est-ce pas, à démettre tous les bureaux de l'Assemblée nationale. Cela voudrait tout simplement dire que nous voudrions adhérer, rejoindre la majorité qu'appelle le chef de l'État. Et une fois que nous sommes dans la majorité, nous avons pour conséquence, n'est-ce pas, la participation au gouvernement. Mais il serait très, très hâtif de pouvoir, n'est-ce pas, développer cette question maintenant là.
On pourrait s'attendre peut-être aussi à une entrée de M. Bemba au gouvernement.
Vous dites.
Est-ce que M. Bemba, vous envisagez au sein du MLC une entrée de M. Bemba, votre leader au gouvernement, au prochain gouvernement?
Dans notre parti politique, nous n'avons pas encore débattu cette question. Nous attendons le moment venu pour pouvoir, n'est-ce pas, placer un mot. Mais à ces jours, je peux vous dire que nous nous réservons, nous observons. Nous suivons l'actualité, nous participons évidemment, et au moment opportun, nous réagirons.
Merci. Monsieur Kazadi, vous êtes là ? Allô ?
Je suis là.
Oui, monsieur Kazadi. Alors, à quoi va ressembler le prochain gouvernement, puisque, voilà, l'informateur sera nommé, vous l'avez, le président l'a dit, le premier ministre risque de démissionner tout à l'heure. Quand on écoute les positions exprimées par Moïse Katumbi de Ensemble pour la République, on écoute celle de Jean-Pierre Bemba, on s'imagine que ces partis, ces personnalités, peut-être aussi, vont entrer dans le prochain gouvernement. C'est ce qui se dit dans votre camp ?
Oui, mais écoutez, avant, parce que vous passez d'un sujet à un autre sans qu'on on les ait totalement abordés,
oui,
c'est très désagréable.
On n'a pas beaucoup de temps, monsieur Kazadi, je suis désolé.
Je veux bien, mais permettez-moi quand même de revenir 30 secondes sur ce qui a été dit par mon frère Moïse et préciser que, de toutes les façons, si on est si sûr d'avoir 300 députés ou je ne sais pas 350 ou même plus, eh bien il n'y a aucune raison d'avoir crainte qu'on nomme un informateur. L'informateur le constatera, il fera le travail. Et donc il ne doit pas oublier qu'au moment où on a formé le gouvernement, il n'y a pas eu, on n'est pas passé par la case informateur. Alors que selon la Constitution, lorsque l'on constate qu'il n'y a pas une majorité dans le sens de la Constitution, ça veut dire qu'un parti est majoritaire, à la majorité absolue, eh bien, on nomme un informateur pour former une coalition. Ça n'a pas été fait, on l'a remplacé par un arrangement politique, FCC Cash, qui d'ailleurs, les deux FCC comme Cash n'ont pas de réalité juridique. Et alors, on a fonctionné tant que ça marchait, que l'accord marchait, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que l'accord ne tient plus, ce qui est le cas depuis hier officiellement, ce n'est que normal qu'on revienne pour vérifier la majorité ou la coalition, la nouvelle coalition. Et qui doit le faire, selon la Constitution, c'est bien l'informateur. Donc ce serait ne pas nommer un informateur qui serait violer la Constitution, et pas le contraire. Alors, pour l'autre question, parce que ça vous intéresse tellement de savoir qui sera au gouvernement, ne soyons pas pressés, attendons justement que cet informateur fasse le travail, et on verra la majorité qui va se dégager. C'est très simple.
Et parlant de majorité, monsieur Kazadi, voilà, l'informateur aura 30 jours, hein, d'après la loi, renouvelable une seule fois pour identifier cette coalition majoritaire. Le FCC vous accuse également d'avoir acheté les députés FCC pour préparer cette majorité à laquelle vous souhaitez arriver. On parle même de 7 000 $ remis à chaque député.
Madame, en matière d'achat de conscience et de députés, nous ne pouvons en aucun cas faire concurrence au FCC. Je crois qu'il vaut mieux passer à autre chose que d'aborder ces questions-là.
Merci. Monsieur Moïse. Allô, monsieur Moïse.
Il faut dire une chose, que notre majorité... Oui, oui, madame.
Je souhaitais que vous réagissiez au propos...
Notre majorité parlementaire est en place.
Oui.
Oui, c'est ce que j'ai dit, que notre majorité parlementaire est en place. Cette majorité a été reconnue au début de la législature par nos amis du CASH et un communiqué a été signé conjointement avec eux. c'est ce communiqué n'a dit 6 mars 2019. Et jusqu'à ce jour, rien n'a changé.
Monsieur Kazadi vient de vous dire qu'elle n'avait aucune valeur juridique.
Dans ce pays.
Il vient de vous répondre, monsieur Moise.
Par quelle magie nous allons perdre cette majorité qui a été reconnue, puisque nous sommes encore en pleine législature.
Mais qui n'a pas de valeur juridique,
c'est pour
dit-il.
Cela que nous disons que les amis du cash veulent lorgner notre majorité parlementaire et veulent la courtiser avec les billets de banque. Et là, ça ne peut pas marcher, puisque nous disons qu'il faut que l'on soit correct. Puisque les élections s'étaient passées le même jour et dans les mêmes conditions, ils ont gagné la présidence et nous avons gagné le Parlement. Donc nous restons avec notre majorité parlementaire et ils doivent tirer la conséquence de leurs décisions, c'est-à-dire en dehors de la cohabitation, nous allons en dehors de la coalition plutôt, nous allons dans la cohabitation et ils doivent tirer toutes les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est-à-dire le gouvernement émane de l'Assemblée nationale et comme ils ne sont plus avec nous à l'Assemblée nationale, ils doivent retirer leurs délégués au gouvernement national et comme dans les gouvernements provinciaux. Nous l'avons dit, c'est une conséquence logique. Mais nous sommes dans un pays où vous avez les opposants, ils ne veulent pas rester à l'opposition. Les opposants aujourd'hui veulent aller au pouvoir alors qu'ils n'ont pas gagné le pouvoir auprès du peuple. Je crois que c'est marrant, ce n'est pas un exemple que nous devons donner au monde. Nous avons reconnu que nous avions trois composantes dans ce pays, le FCC, le CASH comme faisant une majorité et la MUCA comme faisant l'opposition dans le pays. Mais curieusement, la MUCA et le CASH veulent constituer une majorité qui ne sort de nulle part. Et là,
vous parlez, monsieur, le MLC fait partie justement de cette coalition, la MUCA, monsieur Kibuka.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que j'ai dit.
Oui, mais monsieur Moise, la parole est à monsieur Kibuka, s'il vous plaît.
Madame, comme vous le dites, le MLC fait partie de la MUCA, donc nous sommes dans l'opposition.
Est-ce qu'elle existe encore d'ailleurs cette coalition? Parce que quand on écoute, je parlais tout à l'heure des commentaires faits par Moïse Katumbi, qui est également de la MUCA, et votre leader Jean-Pierre Bemba, la MUCA aujourd'hui n'est plus dans l'opposition. Est-ce qu'elle existe d'ailleurs cette coalition encore?
La coalition la MUCA existe, madame. C'est une plateforme, ce fut plutôt une plateforme électorale. Aujourd'hui, elle est en voie d'être mutée en plateforme politique. Au sein de la MUCA, nous avons plusieurs partis politiques d'opposition, mais il existe une charte dans la MUCA qui prend l'autonomie des partis. Et c'est dans ces contextes que, ensemble, comme le MLC, mon cher parti, a participé plutôt aux consultations initiées par le chef de l'État. Donc ce n'est pas interdit, nous avons une autonomie qui nous autorise, n'est-ce pas, d'engager notre parti dans toute démarche tendant, n'est-ce pas, à soutenir ce que la population veut.
Et aujourd'hui, quels sont vos souhaits, monsieur Kibuka? Vous n'avez pas souhaité vous exprimer clairement sur votre entrée ou non au prochain gouvernement. Le représentant du président Tshisekedi, Nicolas Kazadi, a fait de même. Finalement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre lorsqu'on vous entend soutenir l'action, la décision du président Tshisekedi?
Je disais, madame, tout à l'heure que notre position aujourd'hui, c'est une position courageuse de nos idées politiques. Nous battons pour que l'humain, les citoyens ou le Congolais soient au centre du jeu politique dans ces pays. Nous nous battons pour qu'enfin naître Congolais et vivre au Congo ne soit plus regardé pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une malchance, un mauvais sort. C'est avec attention et intérêt que nous avons attendu le président de la République a bondé dans le sens de notre combat quand il a égrené les préoccupations de nos compatriotes. Les défis à relever pour le rencontrer et la nécessité d'y aller en rang serré. Nous avons accepté sa main tendue en prenant part aux consultations qu'il a initiées. Jean-Pierre Bemba, notre leader, a été parmi les premiers, vous le savez, responsable politique à répondre à l'invitation du chef de l'État.
Merci beaucoup. On va à nouveau marquer une pause obligatoire, messieurs. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de ce grand rendez-vous.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle le plateau de ce grand rendez-vous sur l'annonce dimanche par le président Tshisekedi de la nomination d'un informateur. Il s'agit de Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du président Tshisekedi, de Raphaël Kibuka, député national et porte-parole du MLC de Jean-Pierre Bemba et Dieudonné Moinzé, communicateur du FCC. Je reviens à vous, Monsieur Moinzé. Est-ce que finalement, nommer un informateur n'est pas le moindre mal, plutôt que la dissolution du Parlement parce que le président pouvait aussi choisir de dissoudre le Parlement. Monsieur Moinzé.
Oui, madame, nous disons que c'est anticonstitutionnel. Il n'y a pas de moindre mal lorsque l'on parle de la loi, madame. C'est anticonstitutionnel lorsque l'on a un gouvernement issu d'une majorité parlementaire en place d'envisager une possibilité de nommer un informateur. Il n'y a pas de moindre mal là-dedans.
D'accord. Nous le disons ouvertement. Maintenant, c'est fait.
Mais nous
maintenant,
disons également
fait.
Que notre majorité...
C'est fait, les choses sont en train de se dérouler, le président l'a annoncé, on a senti comme une sorte de consensus, puisque même la société civile, en tout cas une bonne partie de la société civile partage la décision du président. Je viens de mentionner la position de la MUCA et du MLC qui est représentée à ce plateau. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être isolé sur la scène politique?
Nous ne sommes pas isolés, madame, et la possibilité que vous évoquez de dire que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, hein, telles que stipulées par l'article 148 de la Constitution. Il n'y a aucune crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et même s'il y avait
Mais excusez-moi, monsieur Moinzé, oui, vous l'avez dit, il n'y a pas de crise, rien ne justifie cela, mais ce qu'on observe, ce sont les faits. Il y a déjà un informateur qui a été nommé, qui peut-être au bout de 30 jours, comme la loi l'exige, va former un nouveau gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, qui sont vos amis? Puisque je demandais, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être isolé, d'être seul? Qui sont vos amis aujourd'hui?
Pas une question.
À part les membres
du
FCC.
Que vous le dites, que vous avez entendu. Vous avez entendu les consultations, le contenu a été clair. Mais le président de la République a ouvert une voie à chercher de l'emploi pour ceux qui ne sont pas dans les institutions. C'est normal que ceux qui ne sont pas dans les institutions viennent lui parler d'écarter le FCC pour qu'ils trouvent de la place. La preuve, c'est que vous avez ensemble de Moïse Katumbi qui est dans la démarche, veut trouver de l'emploi auprès du président de la République. Vous avez également le MLC de M. Jean-Pierre Bemba qui est dans la démarche pour trouver de la place et vouloir bousculer le FCC. C'est anticonstitutionnel, c'est aussi de la malhonnêteté politique, madame. Ça ne peut pas se faire.
D'accord,
nous avons 338 députés et on ne peut pas les corrompre, on doit les laisser au FCC.
Merci M. Moinzé. M. Kazadi, alors la rupture cache-FCC aujourd'hui, est-ce que ça signifie pour autant la fin de la crise politique et du blocage auquel on a assisté pendant 2 ans?
Oui, madame, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Hein. D'abord, très rapidement, nous avions, par rapport à ce que M. Moinzé vient de dire, il parle de 348 ou 338 députés, il oublie qu'il y a déjà près d'une cinquantaine de députés AFDC qui ne sont plus avec lui, avec eux, et il y a 138 députés FCC qui ont signé la pétition contre le bureau dirigé par Mme Mabunda. Donc c'est suffisant pour justifier qu'il y a effritement de la majorité et qu'il y a d'autres développements qui vont suivre. Donc on arrête de nous répéter violation, violation, violation à longueur de journée alors qu'on sait qui ont été maîtres en matière de violation. Donc il faut qu'on soit absolument clair là-dessus.
Et quand vous parlez, M. Kazadi, que d'autres développements vont suivre, est-ce que c'est vous parlez de cette pétition contre Mme Jeannine Mabunda, c'est-à-dire que elle sera démise de ses fonctions. Il y a eu d'ailleurs des incidents aujourd'hui à l'Assemblée nationale entre les militants de l'UDPS et ceux du FCC.
Madame, justement, eux qui prétendent être les gardiens de la Constitution et du droit. Ils savent très bien que dès lors qu'il y a une pétition qui porte sur le bureau ou la présidente du bureau, le bureau n'a plus le droit de siéger, n'a plus le droit. Mais eux,
et c'est pour ça que les militants du PPA et de l'UDPS sont allés s'en prendre à s'attaquer
oui,
perturber la séance.
Le bureau qui est mis en cause s'est permis de convoquer une plénière alors qu'il n'en avait même plus le droit.
Donc c'est vous qui avez demandé à ces militants d'aller perturber cette séance parlementaire?
Non, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hémicycle. J'ai vu un combat entre disons, une opposition entre députés, ce qui arrive dans plusieurs parlements de ce monde. Et heureusement que les députés d'un camp ont réussi à empêcher la tenue d'une plénière convoquée par des gens qui n'avaient plus le droit de le faire. Et on attend la suite et on le verra. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça.
Mais, Monsieur Kibuka, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette solution a été la bonne pour désamorcer la crise politique et enfin débloquer la situation, c'est-à-dire cette solution de nommer un informateur? Est-ce qu'à terme, on ne va pas plutôt accentuer la crise?
Non, madame, je pense plutôt, contrairement à ce que vous venez de dire, j'estime que cette nomination en vue a pour objectif de désamorcer justement la crise. Nous avons observé la coalition au pouvoir, FCC Cash, pendant 2 ans, en train de pédaler à vide. Ils n'ont pas répondu aux attentes de la population. Et justement, l'un s'est réveillé pour dire non, nous devons arrêter, nous ne pouvons pas continuer à aller tout droit au mur. Mettons-nous autour d'une table, parlons, voyons ce qui ne marche pas, changeons la manière de faire. Nous estimons que à ce jour, la décision de nommer l'informateur peut être la solution au problème de blocage, n'est-ce pas, de ces pays.
Et on va dire que ce n'est pas la première fois que la RDC fait appel à un informateur. Au temps du président Kabila, il en avait nommé en 2006 et en 2011, M. Moïse. Allô, M. Moïse ?
Vous avez entendu l'aveu de M. Nicolas qui leurs militants pour aller perturber la plénière à l'Assemblée nationale. Nous disons ceci, madame, que la signature d'une pétition n'est pas synonyme d'effritement d'une majorité parlementaire. Rappelez-vous que dans ce pays ici, en 2009, il y a eu une majorité parlementaire à laquelle moi-même j'appartenais. Nous avions fait partir le bureau de M. Kamere et nous n'avons pas changé la majorité. Donc ce n'est pas une preuve qu'une majorité a changé. Une majorité ne change que lorsqu'on va aux élections. Pendant une législature, une majorité...
Monsieur Moïse, vous avez dit et redit et justifié, mais maintenant on essaie de trouver les solutions. Aujourd'hui, quelle sera la riposte du FCC? L'histoire semble se dérouler maintenant. Est-ce qu'elle va s'arrêter? Qu'est-ce que vous entendez faire en 20 secondes, s'il vous plaît?
Dans ce pays.
Allô? Monsieur Moïse?
Allô, oui.
En 20 secondes, quelle sera la riposte du FCC face à ce qui semble se dérouler de manière inexorable?
Oui, nous avons dit chez nous que le CASH doit tirer la conséquence de sa décision de rompre la coalition. C'est-à-dire, nous, tant que le Premier ministre est en place, il n'a pas encore démissionné, notre gouvernement issu de la majorité parlementaire est encore en place. Et nous demandons qu'ils retirent la conséquence de leur acte, ils retirent leurs membres du gouvernement central et du gouvernement provincial. Et nous allons rester dans une cohabitation où on va commencer.
Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat et restez avec nous pour la conclusion.